Auditeur, Marie-France Guimaroche est toujours derrière son petit micro rouge des studios d'Urocast de Radio Grand Ciel avec le maire de Dreux, Pierre-Frédéric Billet. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour Marie-France.
Vous allez bien ?
Ça va très bien.
Toujours le sourire ?
Toujours le sourire.
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour préciser beaucoup de choses que vous avez à nous apprendre sur la ville de Dreux. Et nous aborderons évidemment tout un tas de sujets. Je parle même de salve.
Oui, bien sûr, c'est aussi l'intérêt, et puis je vous remercie de m'inviter, parce que c'est toujours intéressant qu'on puisse prendre le temps de discuter des sujets. C'est toujours intéressant pour les auditeurs et les Drouais, et au-delà de Dreux, de mieux connaître leur ville, de découvrir la ville de Dreux, et de comprendre la dynamique qu'on crée dans cette ville qui nous est chère.
Nous allons revenir d'abord sur le patrimoine, qui a été évoqué déjà dans une première émission, et on ne peut pas évidemment parler du patrimoine de Dreux sans évoquer la chapelle royale.
Ah, qui est le joyau de la ville de Dreux, la chapelle royale, qu'on va dénommer un peu différemment maintenant. On ne va plus parler de chapelle royale, on va parler de domaine royal. Voilà. La fondation Saint-Louis, qui est le propriétaire de ce domaine royal, chapelle de Dreux, et également du château d'Amboise, a accepté qu'on parle de domaine royal. C'est un peu plus vivant, c'est un peu plus valorisant.
Où en est le jumelage avec votre collègue d'Amboise,
vous m'aviez bien, dit. C'est bien, Marie-France, vous suivez vos dossiers, je vois
ça. M'intéresse beaucoup.
Alors, Thierry Boutard, qui est mon ancien collègue de travail, hein, on a travaillé ensemble avec Claude Greff, député et ministre, est maintenant maire d'Amboise, et on s'est rencontrés il y a 15 jours pour faire effectivement un partenariat qu'on va certainement signer à la prochaine Saint-Denis à Dreux, qui va quelque part un petit peu jumeler nos deux communes sur la base d'un patrimoine intéressant.
On en est bientôt à la 1000e Saint-Denis, non, peut-être ?
Alors la 846e, si je ne me trompe pas.
J'ai peur de ne pas voir la 1000e.
800... Moi non plus, je vous rassure, Marie-France, là, ce serait un peu optimiste.
Quoique,
c'est avec la technologie maintenant. En tout cas, on va signer ce partenariat qui est de deux niveaux. Un échange culturel, d'abord, parce qu'ils ont beaucoup une programmation culturelle qui est très forte à Amboise, et basée sur le patrimoine. Alors, bien sûr, château d'Amboise, le domaine chapelle royale de Dreux, bien entendu. Et puis, on a une histoire industrielle en commun, qui est très surprenante et qui est méconnue, c'est la fabrication des Facel Vega. Vous savez que Facel Vega
à Dreux...
La voiture mythique était fabriquée à Dreux. Et en fait, il y avait un centre de production très important à Amboise qui emboîtait, si j'ai bien compris, les éléments de carrosserie. Et notamment dans un bâtiment qui a été construit par Eiffel, à l'époque, avec une structure spécifique. Donc on va travailler sur cette histoire en commun également, donc c'est absolument passionnant.
Voilà.
Donc on a beaucoup de points communs avec Amboise, et puis je veux que les moins jeunes, les aînés de la ville de Dreux puissent découvrir Amboise, et nous recevrons également des aînés d'Amboise pour qu'ils viennent découvrir la ville de Dreux. Beaucoup de choses sur la table, des échanges culturels aussi à travers des tableaux, des œuvres, etc. Donc on a travaillé toute une journée là-dessus avec Thierry Boutard et ça va prendre forme à partir de octobre 2021.
Voilà. Je peux espérer que quand Monsieur Boutard viendra peut-être à la Saint-Denis, nous pourrons le recevoir dans nos studios.
Il sera ravi, c'est un homme charmant qui a une grande expérience. Il a travaillé dans le monde diplomatique pendant très longtemps. Enfin, il est passionné par tout ça, donc il sera ravi de venir, vraiment.
Bon, je prends note. Alors donc, ce domaine royal de Dreux s'est vu hélas mis à la une des journaux avec le départ du comte de Paris.
Et de sa famille, tout à fait.
Qui s'était installé dans cette maison Philippe d'Or que lui avait octroyé son grand-père, l'ancien comte de Paris, depuis 2011.
Tout à fait. Alors ça, c'est un sujet que j'ai découvert, enfin qu'on connaissait déjà. Il y a une problématique entre la Fondation Saint-Louis et le comte de Paris depuis très longtemps, avec des procès qui sont en cours, qui ont été relancés encore, bref.
Stéphane Bern, d'ailleurs, est partie prenante dans le conseil
d'administration de la Fondation Saint-Louis, tout à fait. Moi, si vous voulez, ça va se régler devant les tribunaux, et bon, ça se réglera comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce domaine royal, chapelle de Dreux, comment on le fait vivre mieux, C'est ça qui m'intéresse. Ma position est la suivante. J'ai dit à la Fondation Saint-Louis, la ville de Dreux est prête à mettre de l'argent pour vous accompagner dans un réaménagement pour redynamiser le site. Mais, en contrepartie, je veux être au conseil d'administration de la Fondation Saint-Louis parce que si on y met plusieurs millions d'euros sur les années qui viennent, il faut qu'un membre du conseil municipal de Dreux, en l'occurrence le maire, puisse être présent au CA de la Fondation pour voir ce qui s'y passe.
Et le prince Jean est, lui, président d'honneur de cette Fondation.
Tout à fait. Ça, c'est dans les statuts, les présidents d'honneur. Moi, je voulais bien qu'on trouve une solution pérenne à tout ça, que les choses s'apaisent. Je regrette que...
Vous espérez qu'ils reviennent ?
Oui, alors, il faut quand même savoir que Philomena et le prince Jean viennent régulièrement à Dreux, quand même. Hein. Ils ont beaucoup d'amis, ils ont beaucoup de connaissances, ils sont attachés à la ville de Dreux. Hein. Je l'ai souvent par message et au téléphone, le comte de Paris. C'est quelqu'un de charmant que moi, j'apprécie particulièrement. Ils reviennent régulièrement, mais...
La princesse Philomena est très appréciée aussi à Dreux.
C'est une femme charmante, très dynamique, appréciée, qui est de très bon niveau. Voilà, donc, pour l'image de Dreux, c'est important. En plus, on a toute une politique, si vous voulez, sur le développement de festivals de haute qualité, d'une dynamique à Dreux. On a besoin aussi de l'engagement, de l'image du comte de Paris.
Mais il s'impliquait beaucoup.
Il s'impliquait beaucoup et je vais lui en demander encore beaucoup parce que j'ai besoin de lui. Voilà.
Vous m'aviez dit dans une émission précédente que vous espériez que les effectifs de la police municipale allaient augmenter.
Ah oui, on compte les doubler d'ici la fin de l'année. Donc, quand je suis arrivé...
Ils sont à combien actuellement ?
Alors, quand je suis arrivé aux manettes, ils devaient être 11 ou 12. 12, je crois, de mémoire. Aujourd'hui, on n'est pas loin de la petite vingtaine et on devrait être à la fin de l'année autour des 23 ou 24 effectifs. C'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on change le matériel parce qu'ils ont des voitures qui n'étaient pas dignes de ce nom, hein, qui roulaient à peine. On aura une brigade motorisée avec deux motos pour aller dans les petits coins où la police ne peut pas aller facilement.
Est-ce qu'ils sont armés ?
Alors... La demande a été faite, la demande a été octroyée, donnée par Madame le Préfet là-dessus, donc nous avons toutes les autorisations. Maintenant, on a des délais en termes de formation. Je pense qu'ils seront armés d'ici la fin de l'année ou début 2022. Vous savez, en fait, les policiers municipaux suivent la même formation que les policiers nationaux. Donc il y a des tests psychologiques, il y a des tests à l'armement, bien connaître son arme. En plus, moi, je suis un passionné d'armes, donc je connais parfaitement ça. Je fais du tir sportif, donc c'est une grande passion, donc je connais ça au moins aussi bien qu'eux. Bref, il y a toute une série de choses à faire là-dessus. Donc on veut des policiers municipaux engagés, très professionnels. Moi, je veux qu'ils soient exemplaires et je veux qu'ils viennent sécuriser ce qu'il y a besoin de sécuriser, et notamment... Je l'avais dit à l'époque, on veut les faire travailler une partie de la nuit pour les sorties de bar. Voilà. Il y a trop de bazar dans
vous
les sorties de bar.
Vous avez résolu un peu le problème ou pas ?
Alors en ce moment, avec la Covid, c'est très résolu.
Oui, bien
alors là,
sûr.
Du coup, là,
la question n'a pas du tout lieu d'être.
Non, si vous voulez, on a une conversation continue avec tous les tenanciers de bar quand il y a des problématiques. On les reçoit, on les convoque, on leur explique. Mais nous disent-ils, et je le comprends aussi, ils nous disent, moi, quand je ferme à 1h du matin, je ferme la boutique, mais mes clients...
Il ne va pas les enfermer dans une courette.
Voilà, et puis reste dehors, discute une heure, etc. Donc nous, il nous faut des policiers municipaux pour accompagner ces gens-là en disant, écoutez, ne restez pas sur l'espace public, il y a des gens qui dorment. Voilà. La police municipale est intéressante parce que c'est une graduation par rapport à la police nationale. La police nationale va venir et puis va régler le problème tout de suite. Nous, on est plus dans une phase de sensibilisation, de concertation pour essayer de dire aux gens... Faites pas de bruit, les enfants qui dorment, etc. C'est plus dans cet état d'esprit, mais il faut qu'on aide. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il nous faut aussi de l'activité le soir à Dreux. Il y a des jeunes, il y a des gens qui ont besoin de sortir, il y a des gens qui veulent prendre un petit verre. C'est tout à fait respectable, mais il ne faut pas que ce soit le bazar. Voilà.
Et l'évolution de la sécurité dans le centre-ville et dans les quartiers extérieurs ?
Globalement, ça se passe très bien. On a eu 2500 faits sur l'entièreté de la circonscription de police qui englobe 50 000 personnes.
En combien de temps ?
Un an. Un an, donc c'est le record absolu en termes de baisse de délinquance. Le confinement nous a aidés aussi, hein, là-dessus, faut être très clair. On a quasiment plus de cambriolages, alors pour l'instant, hein, on en a une petite dizaine sur l'année, ce qui est exceptionnel, et tant mieux. Les gens sont chez eux, les gens ne bougent pas trop, etc. Mais pour autant, c'était une baisse qui était continue depuis 2019 déjà, donc c'est plutôt rassurant. Simplement, en ce moment, centre-ville, je vois des gens un petit peu errés, qu'on ne connaît pas à Dreux, qui font un peu de la mendicité agressive, ça m'embête, des gens qui consomment...
De la mendicité agressive.
Oui, un petit peu, oui, mais on a des retours comme ça, on a des gens qui viennent d'arriver sur Dreux, on ne sait pas trop qui c'est. On a
aussi... Comment vous pouvez résoudre ce problème ?
Alors, c'est tout un travail en dentelle. Là. J'ai organisé une réunion avec la police nationale, la préfecture, la police municipale, tous les acteurs autour de cette question. On a un plan d'attaque qu'on est en train d'établir parce qu'il y a des squats de maisons actuellement à Dreux, des maisons qui sont abandonnées, où on a des gens de différents horizons qui viennent dans ces maisons-là et qui s'installent.
Et vous n'avez pas le pouvoir de les faire fermer
Alors en fait, non. Malheureusement, non. Alors, des fois, les propriétaires ne sont pas connus des maisons. Donc, c'est une autre problématique. Parce qu'en fait, quand vous voulez expulser quelqu'un d'une maison, il faut que le propriétaire en fasse la demande. Sauf que quand il n'y a pas de propriétaire connu, là, il y a un trou dans la raquette. Alors, je passe sur les procédures
qu'on peut... Et pour la sécurité, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, murer carrément une maison ?
Eh ben, exactement, ça fait partie des discussions qu'on a eues avec le commissaire de police. On a mis une sorte de task force en place qui permet à la police municipale, police nationale, de pouvoir cibler tel immeuble. Dès qu'il est vide, les services de la ville viennent pour murer. Voilà. On a eu cette problématique-là, mais c'est un travail qu'on ne peut pas sous-traiter. Il faut que ce soit les services de la ville qui le fassent, parce que vous appelez une entreprise, ils vont venir le surlendemain, et entre-temps, ça a été à nouveau squatté. Donc il faut qu'on soit extrêmement réactif. Il y a d'autres solutions dont je ne vais pas parler là parce que ça ne sert à rien de donner des armes aux ennemis. Mais en tout cas, de solutions techniques pour essayer de sortir les gens de ces immeubles-là. On y travaille sérieusement, mais voilà. Moi, le centre de ville de Dreux, c'est une problématique que je veux résoudre. Je veux que ce soit agréable, dynamique et que ce soit bien fréquenté. Voilà.
Nous allons passer sur un autre sujet, pas tellement éloigné d'ailleurs forcément de la ville, l'hôpital.
Oui.
Je voulais savoir si la mairie de Dreux était partie prenante dans le conseil d'administration de l'hôpital.
Alors, tout à fait. Alors, le conseil de surveillance de l'hôpital, avant c'était un conseil d'administration, maintenant c'est un conseil de surveillance.
De surveillance.
On nous a retiré un petit peu de pouvoir, mais ce n'est pas grave. Je suis le président de l'hôpital, donc je suis très engagé sur les questions de l'hôpital. En réalité, c'est le premier dossier qu'on m'a mis sur la table en arrivant. L'hôpital de Dreux, c'est 2000 salariés, 2000 agents sur notre ville, donc c'est énorme, c'est le premier employeur. On a besoin d'un hôpital de grande qualité pour attirer de nouveaux médecins, soigner les gens de manière qualitative, etc.
Le directeur est Monsieur Hugo Montama.
Alors, Monsieur Hugo Montama, et le premier sujet qu'on m'a mis sur la table, c'est le nouvel hôpital de Dreux.
Vous aviez parlé de Plot.
Oui, par spécialité. Donc ça, c'est les hôpitaux du 21e siècle. Hein, c'est les nouveaux hôpitaux qui permettent de favoriser la médecine ambulatoire. C'est-à-dire, en gros, on rentre le matin, on ressort le soir. Et qui fait par des plots par spécialité. Donc, là-dessus...
Mon père, qui était médecin, qui a été pendant la guerre médecin directeur du sanatorium de Dreux, mais qui a exercé aussi à Paris, dans certains hôpitaux, il y avait des pavillons.
Oui, c'est
un petit peu le même système, finalement.
On revient au pavillon qu'on a pu vous décrire. On reparlera d'ailleurs du sanatorium, parce que j'ai plutôt des bonnes nouvelles là-dessus, donc on en reparlera si vous le souhaitez.
C'est très important, bien sûr.
Alors, l'hôpital de Dreux, juste, je fais un petit focus là-dessus, parce que c'est extrêmement important. Quand je suis arrivé, on m'a dit, voilà, l'hôpital de Dreux, cet immeuble-là de grande hauteur, pose des problèmes de sécurité, etc. Il faut qu'on arrive à décrocher l'accord de l'État pour refaire complètement l'hôpital. Il fallait qu'on mène de front deux études pour pouvoir déposer le dossier au ministère de la Santé. Le premier qui est en cours, c'est l'étude médicale d'établissement. C'est quoi l'étude médicale d'établissement ? C'est de dire, voilà, quels sont les pôles d'excellence de la médecine hospitalière à Dreux ? Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas ? On se spécialise un peu. On fait un peu de tout en général, mais on a des pôles forts.
J'ai vu que l'ophtalmologie allait être traitée maintenant. Alors, à l'hôpital de Dreux.
Exactement, avec de la chirurgie, avec notamment docteur Pétavie Blanc, qui est en libéral, qui est une femme de très haut niveau, qui est maintenant sur Dreux depuis plus de 10 ans. Et puis, l'autre étude qui nous intéresse beaucoup, c'est l'étude immobilière. En gros, c'est on va refaire une boîte pour mettre des gens dedans pour y travailler, mais qu'est-ce qu'on y met là-dedans ? En gros, c'est ça. J'ai réussi avec monsieur Montama, le directeur, à décrocher les financements pour ces deux études-là. Ces deux études-là seront rendues entre juin et septembre de cette année-là. Et je mets la pression pour qu'elles sortent vraiment très rapidement, parce que si l'étude est prête et concluante, on peut le déposer sur le bureau d'Olivier Véran ou de Jean Castex, monsieur Castex, pour décrocher l'accord financier pour refaire l'hôpital.
Et c'est extrêmement... Ça doit être très important, j'imagine.
Ah, c'est entre 100 et 150 millions d'euros. Donc c'est colossal, c'est colossal.
Mais l'hôpital avait aussi, pardon, je voudrais faire une petite incursion sur le sujet des finances. Vous étiez très préoccupé parce qu'il y avait une déperdition en fait de patients.
L'évasion médicale, tout à fait, ouais. Alors ça, c'est un vrai sujet. Simplement pour dire que quand l'étude complète sera déposée sur le bureau du ministre et de M. Castex en l'occurrence, il faut que ce soit maintenant parce qu'il y a la loi Ségur qui est sortie. Il y a 2,5 milliards d'euros pour refaire des hôpitaux en France.
À distribuer. À leur bon vouloir.
Et sur la région centre, le travail qu'on a fait avec l'ARS, c'est de faire reconnaître à l'État et à l'ARS que les deux hôpitaux prioritaires sur la région, c'est extrêmement important, c'est Dreux et Blois. Et entre Dreux et Blois, je veux que Dreux soit mis en priorité une. Parce qu'il y a une question de sécurité sur le bâtiment et que là-dessus, je ne lâche rien, je veux que Dreux soit prioritaire. Castex, suite à cette pression qu'on a mis, etc., est venu il y a quelques semaines en région centre annoncer qu'il y aurait 500 millions pour la région centre et que les deux hôpitaux prioritaires étaient Dreux et Blois. Donc moi, là-dessus, j'ai gagné politiquement. Maintenant, on doit dérouler administrativement et on doit tirer l'accord de l'État pour avoir le feu vert à la fin de l'année pour reconstruire l'hôpital. Donc on aura le feu vert, mais je pense que les travaux commenceront certainement en 2024 ou 2025. Mais dès qu'on a l'accord et les financements, on a gagné. Après, on déroule.
Voilà. Bien sûr.
Et c'est comme ça qu'on attire les nouveaux
médecins.
500
millions pour les deux, ça fait 250 chacun ?
Non, il y a d'autres projets sur d'autres territoires, mais les hôpitaux qui ont besoin d'être refaits complètement, c'est Dreux et Blois. Après, il y aura des aménagements à Chartres, il y aura des aménagements à Châteauroux, etc., etc. Mais vraiment, les deux qui vont prendre le principal du financement, c'est bien sûr Dreux, parce qu'il faut tout refaire, et puis Blois, parce qu'il y a un gros travail à faire aussi.
Je suppose que la leçon de la Covid, c'est qu'on ne ferme plus de lits.
Bah écoutez, ça c'est la... Alors, comment dire ? On a réussi à résoudre le problème, on n'a pas eu toute cette problématique à Dreux, parce qu'on a fait un excellent travail avec la clinique de la Maison-Blanche. Il y a un partenariat entre M. Gaulier, qui est le directeur là-bas, et M. Montama, pour essayer de se répartir les tâches et qu'on puisse absorber toute la demande. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a 55 patients en Covid plus à Dreux. Donc, ce n'est pas des gens réa, juste qu'ils sont hospitalisés. Et ce travail, au plus fort du pic, on était à 115. 55 et 115. Donc, vous voyez, il y a encore de la marge. Hein, voilà. En réa, il y a une tension sur la réa, qui est une tension régionale. C'est ça qui nous inquiète. Donc, on y travaille aussi.
D'ailleurs, quand on voyait les cartes, là, récemment, avant le confinement, on voyait bien qu'il y avait les Hauts-de-France, la région parisienne et l'Eure-et-Loire, qui n'étaient pas dans le tas, mais qui étaient tout rouges aussi.
Oui, qui était un peu dans la zone un peu grise, c'est-à-dire...
Mais c'est surtout, en fait, je crois, du côté de Nogent-le-Rotrou.
Oui. Alors, c'est le sud du département où il y a eu des clusters importants qui sont montés très, très haut, et notamment la sécurité civile. Hein, c'est une caserne à Nogent où il y a eu un cluster très important et qui a fait monter les chiffres. À Dreux, à part l'AREA, la situation est à peu près contrôlée. Les Drouais sont globalement assez
dans les maisons de retraite, il n'y a pas de problème.
Bah, les gens sont vaccinés maintenant. Donc voilà, ça y est, là je vous dis, on n'a quasiment plus de problèmes là-dessus. Ils ont été vaccinés à 85 ou 90% parce qu'il y a une acceptabilité très forte du vaccin. Donc on est très content là-dessus et ça résout beaucoup de problèmes. Hein. Donc le vaccin, c'est la solution.
Voilà. Et pour les réa, vous n'êtes pas obligé d'envisager des
transferts ?
Des transferts ?
Si, alors les transferts se font depuis le début, en fait. Historiquement, les transferts se font à Tours et à Orléans. Parce que c'est des villes universitaires où il y a un CHU très puissant qui peut accueillir. Notre problématique depuis 15 jours, c'est que cette réa d'Orléans et Tours est très chargée. Et c'est ça qui nous inquiète. C'est-à-dire qu'on avait toujours cet arrière-plan en disant bah, on envoie à Tours et Orléans, sauf que la région parisienne a envoyé aussi à Tours et Orléans, et aujourd'hui, ils sont saturés. Donc, je pense que, oui, Emmanuel Macron a pris la décision de confiner là. C'est jamais le bon moment. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Mais je pense que les choses ont été faites plutôt intelligemment là-dessus. Voilà.
Cette nouvelle, ce nouveau confinement, qui en réalité n'en est pas vraiment un, oui. Il y a pas mal de possibilités, laisse en particulier la possibilité justement aux gens de travailler. Est-ce que c'est très important, ça ?
Alors, on nous dit, messieurs, dames, il faut aller travailler. Mais en même temps, il faut télétravailler. Donc, c'est compliqué.
Il y en a qui ne peuvent pas télétravailler.
Quand vous avez un travail manuel, déjà, c'est compliqué. Après, nous, on a mis des gens en télétravail, des fonctionnaires de la ville, là où il y avait des risques. Je ne mets pas en télétravail un fonctionnaire qui est dans un bureau individuel, par nature, et qui est aéré. Donc, au premier confinement, on ne savait pas trop comment faire, donc tout le monde était en télétravail, etc. Ou en ASA, comme on dit, c'est-à-dire en chômage technique, hein, grosso modo. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais expliquez-moi comment un jardinier sur une tondeuse tout seul peut avoir un risque. Donc, on va se détendre, on va ressortir les gens, il faut qu'ils travaillent. Parce que quelqu'un qui tond la pelouse derrière une tondeuse qui est tout seul, je vois pas comment il peut choper le Covid, mais bon, voilà.
J'ai vu à la télévision quelqu'un qui se promenait sur une plage en plein vent tout seul avec un masque FFP2. C'est sûr.
Alors c'est un peu l'excès, mais
il y a des excès, mais les gens ont peur. C'est tout à fait.
Et puis on essaie de faire les choses bien. En tout cas, il faut laisser les gens travailler au maximum. Il faut que les employeurs soient aussi, je dirais, clairvoyants et puis tolérants. Et puis on va en sortir de tout ça.
Monsieur le maire, vous m'avez dit que vous aviez des propositions pour les nouvelles rues de Dreux.
Alors oui, on a aujourd'hui 495 rues à Dreux, au total. Et sur ces 495 rues, seuls 2% de ces rues portent un nom féminin. Voilà. Donc c'est quand même extrêmement limité. La moyenne nationale doit se tourner autour de 5-6%. C'est pas plus glorieux, mais c'est déjà mieux. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on a beaucoup de propositions pour des noms de rues, alors des fois exotiques, etc. Moi, pour résoudre un peu le problème et pour essayer de féminiser ces espaces publics, j'ai proposé à Caroline Vabre, qui est adjointe sur toutes ces questions-là de discrimination, parité, etc., de travailler là-dessus. Et l'idée est venue de dire toutes les nouvelles rues de Dreux, sauf exception, porteront des noms de femmes illustres. Donc on a proposé...
Et il y en a beaucoup.
Et on a proposé, pour trois nouvelles rues, sinon en consultation par Facebook, pour que les gens puissent s'exprimer. Donc on retrouve Joséphine Baker.
Sympa.
On retrouve Édith Piaf, qui a fait un de ses premiers concerts, le fameux concert au théâtre de Dreux, où elle est tombée...
Je l'ai vu. J'y étais.
C'est vrai.
Vous vous rendez compte? Et ça, j'oublierai pas, effectivement.
Donc voilà, c'est des moments importants. D'autres noms aussi, de femmes un petit peu moins connues, comme Suzy Solidor, qui est une femme exceptionnelle, qui est une des premières femmes en 1916 à avoir eu le permis de conduire. Et quand elle a eu son permis, elle était sur le front de la Première Guerre mondiale, faire l'ambulancière, une femme exceptionnelle. Toute une série de gens. Et puis voilà, donc on lance la consultation, dans quelques jours, elle se termine. Donc vous pouvez voter sur Facebook, sur Dreux officiel. Donnez votre avis, et puis les trois premiers noms qui seront sélectionnés seront proposés pour les trois nouvelles rues qu'on crée à Dreux. Et voilà. Et effectivement, donc on réserve ça à des femmes illustres, il y en a beaucoup. Alors là, on a plutôt visé des femmes qui sont plutôt dans l'aspect culturel. Suzy Solidor, c'était une femme qui chantait beaucoup pendant la Première et Seconde Guerre mondiale, qui était très connue à l'époque. Et puis après, on proposera des gens un peu différents. Par exemple, Simone Veil, aujourd'hui, je n'ai pas voulu proposer Simone Veil parce qu'on n'a pas d'espace public, de rue digne de ce nom pour accueillir une telle personnalité. On ne va pas faire une petite rue pour Simone Veil. Vous voyez, faut que ça résonne.
Et même pas une impasse.
Ni un cul-de-sac. Non, je plaisante. Mais effectivement, faut un espace. Vous voyez, comme l'avenue Jacques Chirac au Vieux-Pré, ça a de l'allure. Vous voyez, Simone Veil, c'est une femme exceptionnelle, donc il faut trouver un lieu qui soit digne de ce nom.
L'avenue ou le pont Jean-Yot sont très appréciés.
L'avenue Jean-Yot, le pont Jean-Yot sont des espaces magnifiques. Et puis, on va créer les nouveaux quais qu'on va créer le long de la Blaise, les quais submersibles, etc. On va donner des noms à ces quais aussi. Ça va être... vous savez... ce qui m'a interpellé quand j'ai visité Évreux, là, avec les quais qu'ils ont faits, c'est le pouvoir se rapprocher le plus possible de l'eau, et on a la chance d'avoir la Blaise à Dreux, et le bruit de l'eau. Et je vous assure que quand vous circulez comme ça et que vous avez le bruit de l'eau, ça change toute l'ambiance. Il faut qu'on retrouve cette appétence, ce goût pour l'eau à Dreux.
Il y a beaucoup de cours d'eau, de rivières, de petits ruisseaux à Dreux.
Alors oui.
Je sais qu'il y a la Mourette.
La Mourette, qui passe derrière chez moi d'ailleurs. La Mourette, la Blaise... Si vous voulez, quand vous regardez les affiches de la SNCF des années 1910-1920, ils faisaient de la promotion des nouvelles lignes, donc Paris-Grandville, et ils faisaient des affiches dans les gares où ils faisaient la promotion des villes traversées. Et Dreux, à l'époque, ils écrivaient Dreux, avec une espèce de photo, une peinture, la petite Venise d'Île-de-France. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà à l'époque... on était plutôt Île-de-France dans l'esprit général.
On l'est resté d'ailleurs.
Et économiquement aussi d'ailleurs, on est plutôt Île-de-France, hein, faut dire la vérité. Mais on voyait ça comme la chance d'avoir l'eau à Dreux, l'eau était accessible, visible. Et en fait, on l'a souvent cachée. On essayait, avec Gérard Hamel d'ailleurs, de la montrer, mais on a plutôt fait des canaux, on est éloigné de l'eau. Il faut vraiment qu'on retrouve l'eau, et ça change toute une vie, toute une ambiance.
Et puis, il y a aussi, il faut les entretenir, toutes ces voies.
Mais c'est passionnant, on peut exposer des œuvres d'art, etc. C'est vraiment absolument passionnant.
Merci beaucoup d'être venu. J'ai été très heureuse de vous recevoir, Pierre-Frédéric.
Avec grand plaisir,
Monsieur le maire de Dreux, et j'espère que vous reviendrez. Nous allons parler dans une prochaine émission d'autres sujets, naturellement, mais il y en a beaucoup.
Beaucoup et passionnants.
Et qui intéressent tous nos auditeurs, naturellement.
Marie.
Cette émission était enregistrée par Émilie Glory, directrice d'antenne de Radio Grand Ciel. Et nous allons bientôt vous retrouver, chers auditeurs, avec une autre émission de l'Écho de ma commune, sponsorisée par le Conseil départemental d'Eure-et-Loire. Au revoir, Monsieur le maire.
Au revoir, Marie-France. À bientôt.
À bientôt et merci encore.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.